Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
8h42 sur Radio Classique, Esprit libre avec Cécile Cornudet des Échos et Alexis Brézé du Figaro. J'ai pas mal de sujets, on va parler de Zemmour, on va parler de Le Pen, on va parler de ce sondage Opinionway, les Échos, Radio Classique. L'actualité, c'est évidemment la levée des restrictions concernant la crise. Alors, 2 et 16 février, ce sont les dates qui ont été données par Jean Castex hier. C'est une bonne nouvelle pour Alexis qui va pouvoir aller en boîte. Et pour
avec masque, Cécile,
avec masque et Cécile qui va pouvoir manger du pop-corn également en allant au cinéma. J'ai regardé le titre de l'opinion, l'édito de l'opinion signé de notre confrère Rémi Godeau et il parlait d'une levée des restrictions très politique. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Cécile?
Ah oui, comme vous savez, on est vraiment à la veille d'une entrée en campagne d'Emmanuel Macron. En réalité, la nouvelle du jour, c'est que lundi entre en vigueur le pass vaccinal. Donc oui, c'est plutôt une restriction supplémentaire. Et on ne retient de la conférence de presse que la projection sur le mois de février, comme si on effaçait janvier, parce que le message que veut faire passer l'exécutif, c'est bientôt fini, on va tout envoyer balader. Il y a eu une accélération, en fait, une surprise. Même des proches, même au sein du gouvernement, personne ne pensait que ça irait aussi loin, parce que les chiffres d'hospitalisation sont... surtout les chiffres de contamination restent très forts, mais là, ce qui a fait changer quand même Emmanuel Macron, c'est la levée des restrictions en Angleterre, d'un coup. Donc là, il s'est dit, on peut pas rester. Quand on voit que l'opinion est en train de se retourner, tout le pataquès qu'il y a eu à l'école, il y a vraiment l'envie de montrer c'est bientôt fini, sauf que ça n'est pas encore fini.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites sur l'Angleterre, parce qu'il y a aussi des médecins qui disent attention, la situation n'est pas la même. L'Angleterre, ça avait commencé.
Les médecins sont très sévères ce matin. En fait, vous avez des sévères des deux côtés, de ceux qui attendaient que ce soit complètement libéralisé, qui attendaient des mots, par exemple, comme vous savez, la ministre de la Santé espagnole a dit il faut qu'on arrête de considérer Omicron comme une pandémie très grave, faut la considérer comme une grippe. Jean Castex va pas jusque là. Et en même temps, il accélère un peu le pas par rapport à ce que préconisaient les médecins.
Alexis, le 2 et le 16 février, c'est trop lent pour vous?
C'est pas lent, c'est à pas de fourmi, c'est à la vitesse de l'escargot. Je comprends même pas comment on parle de lever des restrictions. Effectivement, Cécile le disait, il faut quand même voir ce qui se passe partout. Au Royaume-Uni, le gouvernement a compris que l'épidémie était finie. En Espagne, après le maire de Madrid, c'est le Premier ministre Pedro Sanchez qui a dit « c'est fini, on est arrivé au stade endémique ». Au Danemark, c'est la même chose. L'OMS dit que on passe au stade pandémique. L'Agence européenne du médicament dit « ça y est, on entre dans des zones d'endémie et plus de pandémie ». Et nous, triomphalement, on nous annonce que dans 10 jours, si tout va bien, on pourra boire debout. Merci, Monseigneur est trop bon.
Pas si tout va bien, justement. Il n'y a pas de conditions.
Si tout va mal, on pourra boire debout. C'est pas non plus la libération de Paris qu'on va pouvoir boire debout. Et dans 15 jours, si tout va comme ça doit aller, dans 15 jours, peut-être les jeunes pourront aller en boîte de nuit avec un masque. Enfin, c'est comme une blague.
Mais alors, comment vous l'expliquez, Alexis? Parce que je dirais que la Macronie, si je puis dire, aurait tout intérêt à dire c'est terminé, c'est fini, ça y est, on peut passer à la deuxième phase, c'est-à-dire à la phase de la présidentielle. Pourquoi finalement attendre encore le 2 et le 16 février?
Comme vous le disiez au début, c'est très politique. Je pense d'abord que la Macronie, comme vous dites, ne veut pas se déjuger. Il y a cette affaire de passe vaccinale qui a été lancée il y a des semaines contre le variant Delta, il faut bien l'assumer. Oui. Donc ils vont l'appliquer au variant Omicron, alors que le pass vaccinal contre le variant Omicron ne sert absolument à rien. Donc ils ont ça en tête. Il y a l'idée aussi de pas effrayer un certain nombre d'électeurs, notamment les électeurs âgés qui continuent, parce qu'on les a terrorisés depuis des semaines et des semaines, d'être très effrayés. Donc il faut pas donner l'impression de relâcher trop vite. Et puis il y a peut-être chez certains tout petit calcul politique de se dire que tout ça, cette affaire de restrictions qui dure et de débats infinis auxquels on participe à l'instant sur le Covid, tout ça sert quand même Emmanuel Macron, faut dire les choses.
Oui, Cécile.
Jusqu'à une certaine limite. Là, pour le coup, je pense que le vrai changement, c'est que Emmanuel Macron a compris que ça commençait à le desservir. Et toute la polémique sur l'école, c'est ça qui s'est passé. D'où l'accélération, quand même, en tout cas dans les mots, d'aujourd'hui.
Mais il devrait, à mon sens, la grande force d'Emmanuel Macron pendant des mois, c'était d'être l'homme qui libérait et qui disait à Castex, à Véran, donc maintenant on arrête. Et là, de facto, avec ce passe vaccinal, il va être du côté de, pas de celui qui libère, c'est de celui qui rajoute des restrictions.
Comme vous dites, l'électorat âgé, c'est lui qui vote, mais c'est lui qui importe.
Alors, on va passer à la une de votre journal, Alexis, à la une du Figaro, qui publie les chiffres de l'immigration. L'immigration, alors vous allez nous en donner quelques-uns, mais l'immigration sera, et déjà, mais elle sera évidemment au centre des 80 jours qui restent avant le premier tour.
Ça me paraît assez évident quand on voit la réalité des chiffres, quand on regarde que l'immigration, qu'elle soit légale ou qu'elle soit clandestine, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit pour des raisons de santé, tout est en augmentation. Il y a eu une sorte de tassement en 2020 avec la crise, et en fait tout ça est reparti sanitaire, comme au plus beau jour, et donc on est toujours sur un rythme en grosso modo de 400 000 par an. Évidemment, ça pose une question qui d'ailleurs va au-delà de la stricte question de l'immigration. C'est au fond une espèce de malaise où se mélangent l'immigration incontrôlée, l'insécurité galopante, l'islamisation accélérée, tous ces phénomènes qui se superposent sans se correspondre absolument et qui fait qu'il y a une angoisse collective qui traverse toutes les classes d'âge, toutes les parties autour de quelque chose qui se défait, qui peut être quoi, notre art de vivre, notre civilité, notre culture, notre civilisation, la continuité historique, toutes ces questions-là travaillent en profondeur les Français. Et évidemment, la campagne abordera ces sujets-là, évidemment.
Alors, il y a la question de l'immigration, et puis il y a aussi la question du pouvoir d'achat. D'ailleurs, c'est le thème de votre édito, Cécile, dans Les Échos ce matin.
Oui, parce que là, les prix de l'énergie à la pompe ont complètement remis ce sujet en tête des préoccupations des Français. On voit bien que leur morale là-dessus est indexée sur ce qui se passe quand ils font leur plein d'essence. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça bouge quand même, ça pousse Valérie Pécresse et Emmanuel Macron à changer leur approche du sujet. Emmanuel Macron, en gros, il disait, on a fait tout ce qu'on a pu. On a baissé les cotisations, on a fait des chèques. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Et dans sa campagne, il avait envie de mettre le thème du plein emploi en avant pour dire, finalement, c'est la seule façon de régler le pouvoir d'achat. Parce que s'il y a le plein emploi, il y aura des tensions dans les entreprises. Les salariés reprendront plus de pouvoir et pourront exiger des augmentations de salaire. Et Valérie Pécresse, on sait bien que la droite, c'est pas son sujet majeur, le pouvoir d'achat. Alors, elle a toujours eu une mesure pouvoir d'achat dans ses propositions, même à l'automne. Mais là, on voit que la question dépenses publiques, la question compétitivité des entreprises passe au second plan derrière ça et qu'elle est en train de trouver d'autres mesures
pouvoir d'achat. Les 150 000 fonctionnaires en moins, on en parle
là, en parle beaucoup moins. En revanche, elle a des nouvelles propositions. Il faut permettre aux personnes qui dépensent des pleins d'essence de pouvoir déduire de leurs impôts. Il faut transformer le temps de travail. Il faut permettre aux salariés de pouvoir en bénéficier de façon monétisée. Donc, on sent qu'elle est beaucoup sur ces sujets. Et ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que la gauche.
Alexis.
Bien sûr qu'on va parler de tous ces thèmes-là. Et c'est vrai que ces hausses en rafale préoccupent les gens à juste titre. Néanmoins, je ne suis pas absolument sûr qu'ils soient au centre et qu'ils structurent la campagne électorale, ces thèmes de pouvoir d'achat, pour une raison qui me intéressante à analyser, qui est que pour qu'un thème structure une campagne, soit au centre et organise les débats, il faut que ce soit important pour les Français, que ça les préoccupe. C'est le cas de l'emploi, c'est le cas du pouvoir d'achat, c'est toujours été le cas. Mais il faut aussi qu'il soit l'objet d'une controverse, qu'il divise, qu'il y ait un affrontement. Quand tout le monde est d'accord sur un sujet, même si le sujet est important, on ne construit pas une dynamique de campagne dessus. Il faut qu'il y ait des pour et qu'il y ait des contre. Mmh. Et donc, si tout le monde est dire qu'il faut défendre le pouvoir d'achat, si tout le monde est pour améliorer l'emploi, ça ne structure pas. C'est pour ça qu'il faut se méfier quand on fait la liste des préoccupations, des thèmes de campagne. On dit, ah, c'est l'emploi qui est en tête, c'est le pouvoir d'achat qui est en tête. Oui, mais ce n'est pas forcément, et à mon avis, ce n'est pas autour de ça que se jouent les campagnes.
Oui, mais c'est autour de ça, par exemple, que la question de la dépense publique, on voit bien, peut passer au second plan, alors que la dette, etc.
Alors, j'ai parlé du Figaro, j'ai parlé des Échos, j'aurais parlé de Radio Classique et de son baromètre, le baromètre Radio Classique Opinion Week, qui est aussi celui des Échos, je tiens à le dire. Alors, c'est assez stable, on en parlait avec Bruno Jambard à 7h40, le vice-président d'Opinion Week, c'est assez stable. Emmanuel Macron, les principaux, on va dire, candidats à la victoire, soit gagnent, soit perdent un point, donc on est dans un espèce de statu quo. Macron est à 24%, Valérie Pécresse à 18%, Marine Le Pen à 17%, donc toujours ce match pour la seconde place entre le Rassemblement National et les Républicains. Ce qui est intéressant également dans ce sondage, finalement, c'est ce qui se passe à gauche.
Oui.
On voit un petit frémissement Taubira. On voit que pour Anne Hidalgo, c'est de plus en plus compliqué. Elle est créditée de 3%, Taubira 6%. Et on voit aussi que Yannick Jadot, il est à 5%
oui,
aujourd'hui,
une dynamique... Baissière, plutôt baissière.
Voilà, c'est ça.
On pensait que effectivement l'entrée en campagne de Taubira mettrait un match Taubira-Hidalgo. En réalité, Hidalgo est déjà un peu largué. Et le match, il se joue là en ce moment entre Christiane Taubira et Yannick Jadot. C'est pour ça que Yannick Jadot a essayé au Parlement européen, vous savez, il y a deux de montrer que son face-à-face avec Emmanuel Macron, moi je pense que ça s'est largement retourné contre lui. Il y a un mystère Jadot pour moi dans cette campagne, parce que la question climatique, oui, on sait, est vraiment très très prégnante pour les gens, et notamment pour la jeune génération, et il n'arrive pas à en être le bénéficiaire, parce qu'on n'arrive pas à savoir, en fait, je pense, qui est vraiment Yannick Jadot. Il se livre pas, quelle est la personne, et je pense que c'est pour ça que Taubira, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle, on sait qui est la personne.
Mais ce qui est intéressant finalement chez les écolos avec Yannick Jadot, c'est qu'il est dans la lignée, j'allais dire, des écologistes pour une présidentielle. Et c'est vrai que Cécile le rappelait, l'écologie, la transition écologique, la question du climat, ce sont des questions essentielles. Ça n'imprime pas. Alors
peut-être disait, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, Alexis, qui est que quand tout le monde est d'accord, ça ne structure pas une campagne. Personne n'est pour le réchauffement climatique.
Alexis,
donc le fait d'être contre ne fait pas de vous le champion d'un camp contre un autre.
Alexis, on présentait quand même Yannick Jadot, quoi qu'on en pense, comme plutôt un bon candidat, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on avait connu précédemment du côté de l'écologie, et ça marche pas.
Mais c'est vrai que pour l'instant, il semble pas échapper à la malédiction écologique, mais qui est une malédiction extraordinairement ancienne, puisque les candidats écologiques n'ont jamais dépassé les 5%, enfin, je vais pas me tromper, mais parfois 2, 3%.
Noël Mamère, je crois, avait passé les 5% en 2002.
Par rapport à l'importance du terme écologique dans l'opinion, par rapport à l'adhésion globale, oui, au thème écologique, les écologistes n'ont jamais pu porter ça. Si on s'intéresse à votre sondage dans l'ensemble, c'est quand même la glaciation covidienne qui continue. Les mouvements qu'on regarde là sur Hidalgo, Jadot, c'est les mouvements qui se passent profondeur sous la glace. Mais grosso modo, le paysage est gelé aujourd'hui par le Covid.
Quand même, Zemmour a été un peu distancé. Il y avait vraiment un match à 3, Pécresse, Le Pen, Zemmour.
Il est à 13%.
Il gagne un point.
Il a un petit peu baissé. Ouais. Ce sondage, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur le site, ce sondage Opinion Way Radio Classique. Sur le site de Radio Classique, vous aurez tous les détails de ce sondage qui est encore tout chaud. Il nous reste 2 minutes 30. J'aimerais qu'on parle justement d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Cette bataille, c'est presque on a l'impression que c'est une bataille à mort en ce moment, parce que on lâche les coups des deux côtés, avec notamment pas mal de ralliements finalement pour Éric Zemmour. Alors, on pense à bien sûr à Pelletier, et puis il y a Jérôme Rivière, le chef des eurodéputés du Rassemblement National, qui a quitté Marine Le Pen pour Éric Zemmour. Qu'est-ce que ça dit? Alors, ce sont pas forcément, je pense à Jérôme Rivière, c'est un personnage important, mais qui n'est pas connu du grand public, mais qu'est-ce que ça dit quand même de ce qui se passe actuellement entre Zemmouriens et Rassemblement National, Cécile?
Alors, c'est la lutte à mort. Ça l'est aussi avec LR, parce que vous parliez de Guillaume Pelletier, le ralliement, et Éric Zemmour attend d'autres ralliements de LR ces temps-ci. Et ça montre aussi que Éric Zemmour, finalement, il voulait incarner une politique un peu différente, et il voit bien, comme il n'arrive pas à trop animer le débat depuis cette rentrée, que voilà, il est dans une bataille de ralliement. En fait, son exemple, là, c'est le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron en février 2017, qui avait permis tout d'un coup la campagne, vraiment l'élection d'Emmanuel Macron. Il rêve de ce ralliement-là. Ce ralliement, ce serait une Marion Maréchal Le Pen, ce serait des poids lourds, vraiment, du Rassemblement National, type Nicolas Bay, enfin, des gens vraiment installés dans le paysage. Ceux-là croient à l'union des droites, en réalité. Mais pour l'instant, ils ne sont pas prêts de franchir franchir le pas tant qu'il voit que c'est Marine Le Pen qui peut l'emporter. Donc là, il essaye de créer une petite dynamique. On va voir si ça marche.
Alexis.
Ouais, le créneau de Zemmour, Cécile le dit très justement, c'est celui de l'union des droites.
Oui, c'est ça. C'est d'être au milieu entre les Républicains et le Rassemblement national.
Si on regarde l'identité des personnes qui viennent de le rallier, alors que bon, lui, ça va pas très bien aujourd'hui dans les sondages, vous le disiez, mais donc il crée des ralliements. Si on regarde qui le rallie, Guillaume Pelletier, c'est un homme de droite, puisqu'il était vice-président des LR, mais qui était passé par le Rassemblement, par le Front National à
la grande époque. Qui avait commencé par le Front
National. Donc c'est un homme de droite qui est passé par l'extrême droite. Et Jérôme Rivière, c'est un homme de l'extrême droite, du Rassemblement National, qui vient de la droite, puisqu'il vient du PR et des équipes de Léotard il y a bien des années. Donc là, on est vraiment au cœur de la thématique de l'union des droites. Et le fait qu'un certain nombre de gens rejoignent Zemmour maintenant, ça pourrait dire déjà que et Valérie Pécresse et Marine Le Pen dans leurs camps respectifs ne convainquent pas absolument. Ça peut vouloir dire aussi qu'un certain nombre de gens se disent, après tout, pour la suite, pour la recomposition, même si Zemmour gagne pas, et surtout s'il gagne pas, et si Marine Le Pen gagne pas, il vaut mieux être dans une machine qui sera celle de l'union des droites.
Cécile, un mot.
Oui, tout à fait. En réalité, il y a toute une partie des gens qui préparent l'union des droites. De toute façon, ils avaient un calendrier sur l'après-présidentiel. Marine Le Pen perd, et donc on organise quelque chose. Toute leur question aujourd'hui, c'est de savoir si Zemmour change la donne et s'il faut devancer cette offensive, cette révolution-là.
Esprit libre avec ce matin Cécile Cornudet des Échos et Alexis Brézet du Figaro. Je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end et je vous rappelle que ce sondage Opinionway Radio Classique, vous pouvez le retrouver en détail sur notre site. Il est 8h57 dans un instant. Nous allons retrouver Lucille Bréau pour la météo et le journal.